Vous écoutez
RMC. 5-7, le Morning RMC.
Et à 6h30 sur RMC, nous accueillons Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
Et à la une, les conséquences de l'affaire Liana.
Gérald Darmanin, vous allez l'entendre, reste un premier bilan du réexamen des affaires de violences sexuelles sur mineurs qu'il avait ordonné. La fin du débat sur la fin de vie, le Parlement adopte définitivement la création d'un droit à l'aide à mourir. Et puis la qualification encore miraculeuse de l'Argentine, 2-1 contre l'Angleterre hier soir à la Coupe du Monde.
Gérald Darmanin salue le travail considérable réalisé depuis un mois par les magistrats.
Ils avaient pour consigne, sans quoi ils ne partaient pas en vacances dans la foulée de l'affaire Liana, eh bien de réexaminer les dossiers de violences sexuelles impliquant des mineurs. Ils avaient jusqu'à avant-hier donc pour le faire. C'est chose faite et le ministre de la Justice dresse donc un premier bilan, Sébastien Krebs.
Oui, d'ailleurs, l'entourage de Gérald Darmanin vante un pari réussi. Cette grande revue de près de 70 000 dossiers, ce coup de pied dans la fourmilière a eu des effets sur la période. Le nombre de suspects incarcérés a presque doublé et le nombre d'ouvertures d'informations judiciaires a triplé. La preuve pour la chancellerie que l'objectif est atteint. Ces dossiers sont maintenant traités et notamment les 970 enquêtes prioritaires dans lesquelles un suspect est déjà identifié, qu'il a des antécédents et que la victime est toujours mineure. Dossier qui ressemble en tout point à l'affaire Liana. Difficile de savoir combien de ces enquêtes avaient pris du retard, combien traînaient dans un tiroir, mais on sait que la moitié des plaintes étudiées datent de plus d'un an. Gérald Darmanin va maintenant recevoir un par un les 36 procureurs généraux pour identifier d'éventuels dysfonctionnements et manque de moyens.
Et concernant l'affaire Liana en tant que telle, eh bien le suspect Jérôme Barella a été mis en examen dans la soirée pour le meurtre et le viol de l'adolescente.
C'est la fin de 4 longues années de débats sur la fin de vie. Les députés ont une dernière fois voté le texte qui ouvre la voie à un droit à l'aide à mourir.
Oui, vote à la dimension historique puisque c'est le plus long débat parlementaire des dernières décennies et qu'il fait donc entrer la France dans le cercle restreint des pays autorisant donc ce droit à l'aide à mourir. Sonia Gobry.
Dans un hémicycle inhabituellement calme, les députés écoutent la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, ton solennel.
L'Assemblée nationale a adopté.
Les députés pour la loi fin de vie applaudissent. Certains lèvent les yeux vers les tribunes. On y voit l'ex-député Modem Olivier Falorni. À l'initiative de ce texte, il sourit, visiblement ému.
J'ai l'impression d'avoir vécu une interminable odyssée pour une loi qui rentrera, j'en suis persuadé, dans l'histoire. L'Assemblée nationale a montré le plus beau visage d'elle-même.
Yael Braun-Pivet se dit très fier de présider cette Assemblée qui a tenu plus de 250 heures de débats respectueux sur ce sujet éthiquement sensible.
Ce qui en fait, depuis les années 80, le plus long débat parlementaire que nous ayons eu sur un texte.
Mais pour les détracteurs du texte, comme le député RN Christophe Benz, le débat a été tranché trop vite, même s'il y a eu 4 votes favorables à l'Assemblée.
Vote après vote, l'écart s'est réduit. De moins en moins de députés ont été favorables et de plus en plus de députés sont sceptiques, voire opposés. J'y vois quand même un signal positif, d'autant que le combat n'est pas totalement terminé.
Il espère maintenant que le Conseil constitutionnel réduira la portée de cette loi sur la fin de vie.
Et c'était une promesse d'Emmanuel Macron qui salue, je le cite, un débat respectueux et un engagement tenu.
Le président qui se rendra à Fontainebleau aujourd'hui.
Oui, pour apporter son soutien, nous dit l'Élysée, aux 950 pompiers qui luttent toujours contre le feu, mais alors, désormais fixés à 60 km de Paris. Ils espèrent pouvoir permettre la réouverture de l'autoroute A6 qui est toujours fermée dans le secteur avant les départs en vacances et le gros week-end qui nous arrive. En attendant, les habitants de la commune du Vaudoué qui avaient été évacués près de Fontainebleau, eh bien, ils ont eu l'autorisation de rentrer chez eux, nous dit Caroline Renaud.
Son jardin jonché de cendres, ses fenêtres pleines de suie, rien qui ne pourrait gâcher le soulagement d'Annie.
Content de rentrer chez nous, de retrouver notre maison. On se dit, on s'en va, mais peut-être qu'on la retrouvera pas.
Mais impossible de se défaire de cette boule au ventre.
C'est traumatisant, on va pas dormir profondément. Certainement se réveiller plus d'une fois en se disant, bon, j'espère que tout va bien, que ça va pas recommencer.
Les habitants scrutent donc la moindre fumerole.
Ouais, il y avait un truc, je l'ai noyé.
Ah, super. Comme Corinne.
En se promenant, on peut toujours voir s'il y a des flammes sous-jacente ou quelque chose comme ça. S'il y a des départs de feu ou pour signaler tout de suite.
Un peu plus loin, Marine arpente la forêt, elle aussi, dans une odeur de brûlé.
C'est noir, c'est blanc, mais il n'y a plus de couleur, quoi.
Difficile de revenir entre les pins et les chênes noircis.
C'est vrai qu'on a notre fille qui ramasse des fleurs, qui fait des roulades par terre dans la mousse. Voilà, bah ça, elle pourrait plus le faire.
Et au lieu du chant des oiseaux,
là, on n'entend rien. Le vent, les moteurs, des engins, les sirènes, et il n'y a plus d'animaux, quoi.
Elle s'inquiète de devoir s'adapter à un paysage meurtri qui mettra des années à repousser.
Et désormais, ce sont les orages qui font des dégâts. Charente-Maritime, Ardèche, Côte d'Or provoquant même des inondations dans quelques maisons du sud de la Mayenne. C'est ce que rapporte ce matin le journal Ouest France.
Ouais, et c'est allé à la vitesse de l'éclair. Hier, sur le Tour de France, on a vécu l'étape la plus rapide de l'histoire.
À plus de 51 km/h de moyenne, imaginez un petit peu. Et encore plus dans le sprint final que le Norvégien Søren Waring Coyle a remporté à Nevers. C'est pas le plus connu des sprinteurs, mais on apprend à connaître des coureurs comme ça pendant le Tour de France, comme le nouveau chouchou du public, Baptiste Weisstrofer. Souvent à l'attaque et qui amène un vent de fraîcheur, nous dit Romain Asselin pour RMC.
Même pas deux semaines de course, c'est déjà un fan club. Quentin est sous le charme du sanglier, c'est son surnom.
C'est impressionnant, il arrive à s'envoyer 150 bornes d'échappée tout seul, à plus de 45 de moyenne. De nos jours, on est beaucoup concentré sur la hype des grimpeurs et tout, alors qu'on, si on regarde un peu plus derrière, on a des gros rouleurs français comme ça qui peuvent vraiment nous faire un beau spectacle. C'est vrai que là, il est en train de faire une bonne place dans le cœur des Français. Il continue de nous faire rêver, les Français. Un jour, il lèvera les bras sur le Tour de France.
En attendant, le voilà élu coureur le plus combatif de la première moitié du Tour. 300 km d'échappée et une sacrée personnalité.
C'est un personnage, c'est une gueule.
Jean-François Bourlard, manager général de l'équipe Lotto Intermarché.
Il s'amuse sur le vélo, Baptiste. C'est gai à voir. Quand on a un cyclisme parfois aseptisé, la fraîcheur comme Baptiste l'amène, c'est sympa. Le public aime ça. Il sourit, il répond aux gens, il prend du temps pour faire des photos et donc forcément, il peut que plaire.
Baptiste Weisstrofer savoure cette popularité naissante.
C'est vraiment cool. Ça donne de la motivation en plus. Et ouais, c'était un peu inattendu, mais voilà, je remercie tous les gens qui me soutiennent. Et voilà, je suis juste moi-même et je pense que les gens, ils aiment.
Au point de lui réclamer des attaques dès le départ des étapes, sa spécialité.
Alors on verra ça aujourd'hui sur la 12e étape de 179 km entre le circuit de Magny-Cours et Chalon-sur-Saône.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et on aura donc une finale Espagne-Argentine dimanche à la Coupe du Monde.
Messi sur le côté droit de la surface de réparation qui accélère, le pied droit, le centre, au deuxième poteau. Au deuxième poteau, c'est Lautaro. Et l'Argentine qui vient tuer l'Angleterre.
Voilà donc l'Argentine qui se qualifie encore miraculée. Elle a renversé l'Angleterre de buts à 1 avec des buts à la 85e puis 92e minute hier soir. Et c'est donc contre l'Angleterre que la France jouera la petite finale samedi à Miami. Les Bleus qui sont entraînés hier soir à Boston, ils y partiront à Miami dès aujourd'hui.
Allez, on passe à autre chose. Le Quintet à Compiègne aujourd'hui.
20h15 en nocturne. Les courses ce soir, le 5, le 4, les pronos de la Dream Team. Le 5 en favori, The Shadow. Et le 4 en outsider, Zakusha.
Merci Quentin Vinet. Prochain journal à 7h sur RMC.